Isère Classique, le magazine musical de RCF Isère, présenté cette semaine par Éric Rouillet du label Le Palais des Dégustateurs.
Alexandre Lokshin, compositeur russe, né en Sibérie en 1920 et mort à Moscou en 1987. Préciser qu'il est totalement inconnu en Occident n'est pas exagéré. Bien que Shostakovich et Schnittke aient pu le considérer en privé parmi les plus grands, Shostakovich, qui n'a jamais rien dit sur lui en public, l'estimait parmi les génies du XXe siècle. Il a été banni 2 fois du conservatoire Tchaïkovski de Moscou après avoir été calomnié et dénigré. Son œuvre aura été défendue avec courage et beaucoup de risques par la pianiste Maria Yudina. Alexandre Lokshin fut tellement sali et diffamé que non seulement les pro-soviétiques ne jouaient pas ses œuvres, mais également les dissidents. En 1948, il est accusé de la propagande de la musique idéologiquement étrangère de compositeurs qu'il admire, parmi lesquels Gustav Mahler et Alban Berg, mais également Igor Stravinsky. Avec d'autres salissures de l'époque, dans un contexte où démêler le vrai du faux ne possédait finalement aucun intérêt. Accusé d'avoir collaboré avec le KGB et d'être un délateur par 3 anciens prisonniers du Goulag, sa musique fut condamnée à n'être jamais jouée et il fut désigné comme le génie du mal. Parmi ces 3 prisonniers du Goulag, un ami très proche du pianiste Sviatoslav Richter. Est-il pertinent, en essayant de rendre hommage à Alexandre Lokshin, de plonger dans le contexte de l'époque en y faisant remonter des lambeaux, pas forcément indispensables et auxquels nous pourrions nous soustraire? J'estime nécessaire d'en faire état sans porter aucun jugement sur des affaires bien difficiles à appréhender et dont nous ne saurions conclure aucune vérité. Voici ce qu'écrit le fils du compositeur à propos de Sviatoslav Richter. Les personnes qui ont quelque chose à cacher ne devraient pas écrire leur autobiographie ni leur mémoire. Parfois, le fait qu'il reste de la culpabilité donne au non-dit une éloquence plus forte que les mots. Le temps est venu de poser la question de savoir si Sviatoslav Richter était lié ou non à la Loubianka, le quartier général de toutes les polices politiques soviétiques. Cette réponse est fondamentale pour l'histoire de la vie de mon père. Il ne fait aucun doute que c'est sur son influence qu'il devait devenir un compositeur interdit. Pour ceux qui s'interrogeraient à ce sujet, voici des précisions en ma possession. Je ne m'engagerai pas plus loin dans cette révélation aussi virulente qu'inattendue envers un pianiste adulé et considéré parmi les légendes de l'instrument. Je me contente simplement de le signaler. Son fils a recueilli 2 documents prouvant l'innocence de son père. Ils sont résumés dans 2 ouvrages, publiés pour le moment exclusivement en russe. « Le génie du mal » et « Un musicien à travers le miroir ». Officiellement disculpé en mars 2002, une étape essentielle précédant la réhabilitation à titre posthume de Lokshin a été l'interprétation de son requiem par Rudolf Barschai à la fin de la 4e conférence internationale Résistance au Goulag, se tenant à Moscou le 29 mai 2002. Il est l'auteur de nombreuses symphonies, 11 au total, de poèmes symphoniques et d'un petit nombre d'œuvres de musique de chambre, et finalement d'une seule pièce pour piano, composée en 1953, est dédié à la fameuse pianiste russe Maria Greenberg, à laquelle nous avions consacré une émission au sujet des préludes et fugues de Shostakovich pour son interprétation miraculeuse d'Urgence animale. Un des traits typiques de l'œuvre de Lokshin est sa libre utilisation de la variation. Beaucoup de partitions portent le sous-titre de thème et variation, où sont découpées aussi chaque réapparition du thème se présentant comme des métamorphoses d'une cellule germinale. Que dire de cette unique œuvre pour piano que j'essaye de faire enregistrer depuis des années à un pianiste qui aurait les épaules pour cela? Elle est magistrale, unique, inaltérable. Et je crois qu'elle écrase toutes les variations de Brahms que j'ai pu enregistrer avec le grand pianiste Boris Berman par sa dimension qui n'exprime pas un état d'âme à la recherche d'émotions, mais un destin, une traversée humaine qui va bien au-delà. Non pas que je dénigre l'une de mes propres production discographique, mais le poids de cette composition engloutit un Brahms qui devient alors un divertissement. Maria Greenberg enregistra cette pièce en 1956 avec toujours cet engagement furieux, méticuleux, totalement impliqué jusqu'à une expressivité qui perd sa nécessité de produire du charme. Un charme qui est souvent un simple appât. La disgrâce cogne immédiatement dans l'essentiel. Écoutons ce monument absolument inconnu et qui le restera, quoi que l'on fasse. Parce qu'en plus, les difficultés techniques sont effroyables et que les pianistes raisonnables ne s'y risquent pas. Il ne s'agit pas de musique de l'entre-deux, évocatrice, suggestive, qui peint des sensations diffuses dans une sorte de gourmandise larmoyante. Ici, il faut engager le combat. Nous aimerions connaître l'analyse de Guy Sacre à ce propos.